Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
À l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier, nous nous intéressons au décret sur l'œcuménisme Unitatis Redintegratio. Il a été promulgué le 21 novembre 1964 par Paul VI. Quelle était l'intuition de départ et aujourd'hui, comment ce texte inspire-t-il les débats entre les églises ? Promouvoir la restauration de l'unité entre tous les chrétiens est l'un des objectifs principaux du Saint Concile œcuménique de Vatican II. C'est la première phrase de ce décret Unitatis Redintegratio. Le ton est donné. Pour bien comprendre ce texte, j'ai la joie de recevoir le frère Philippe-Marie Margelidon, dominicain et professeur de théologie. Bonjour frère Philippe-Marie.
Bonjour.
On va commencer tout de suite par ce texte conciliaire dans lequel a été élaboré ce décret Unitatis Redintegratio. C'est le dernier texte qui a été voté et il fait partie en fait de la constitution dogmatique Lumen Gentium. Frère Philippe-Marie, est-ce que vous pouvez nous préciser le cadre de ce décret ?
Oui, alors ce décret, donc un décret, fait partie des différents documents issus du Concile Vatican II en sa troisième session, la dernière. Vous venez de le dire. Le même jour ont été votés d'abord un texte majeur qui s'appelle la Constitution dogmatique, Lumen Gentium, de laquelle dépend, elle ne fait pas partie intégrante, de laquelle dépend le décret sur, qu'on appelle le décret sur l'œcuménisme. Donc pour bien comprendre le contenu et les intentions de ce décret, il faut se rapporter à la Constitution dogmatique sur l'Église.
D'accord. Et effectivement, c'est ce qu'on fera avec des allers-retours pour pouvoir bien comprendre tout ça. Dans ce contexte, c'est vrai que le Paul VI a dit le 30 juin 1968, reconnaissant l'existence en dehors de l'organisme de l'Église du Christ, de nombreux éléments de vérité et de sanctification qui lui appartiennent en propre et tendent à l'unité catholique et croyant à l'action du Saint-Esprit qui suscite au cœur des disciples du Christ l'amour de cette unité. Nous avons l'espérance que les chrétiens qui ne sont pas encore dans la pleine communion de l'unique Église se réuniront un jour en un seul troupeau avec un seul pasteur. C'est une longue citation, mais ça montre bien cette espérance et cet esprit, en fait, de ce décret.
Oui. Oui, alors la cause œcuménique a été donc entérinée, pourrions-nous dire, au deuxième concile du Vatican, bien que le dit œcuménisme est antérieur au concile, donc au moins quasiment un siècle avant. Fin du XIXe siècle, on peut constater, on peut observer plutôt les premières tentatives qu'on qualifierait d'œcuménisme. Mais c'est l'intention de l'Église catholique romaine de chercher, conformément à la volonté du Christ lui-même, les voies de l'unité des chrétiens, non pas de l'unité des églises, il n'y a qu'une seule église, l'unique église du Christ, qui subsiste dans l'Église catholique, comme dit Lumen Gentium, mais en dehors de laquelle existe, en dehors de laquelle Église romaine, catholique romaine existe, des éléments dits de vérité et de sanctification, on dit aussi de vestiges de l'Église, vestigia ecclesiae. En raison de ces éléments et de ces vestiges, l'Église catholique considère qu'elle doit tendre avec les autres chrétiens qui ne sont pas catholiques vers l'unité plénière, et qui est celle de l'unique Église du Christ.
Oui, et cette parole du Christ, que tous soient un.
C'est le point de départ.
C'est vraiment fondé sur ce principe.
C'est le fondement de la démarche œcuménique.
Alors, ce décret Unitatis Redintegratio, il est introduit par un préambule qui dit notamment ceci: une seule et unique Église a été fondée par le Christ Seigneur. En quoi c'est fondamental cette citation,
Parce qu'il n'y a pas plusieurs Églises, il n'y en a qu'une. Mais il y a plusieurs confessions chrétiennes qui disent être l'unique Église du Christ. Bon. Or, l'Église catholique romaine considère qu'elle est cette unique Église du Christ. On dit subsister, hein. Elle subsiste en elle. Mais il y a, en dehors d'elle, des éléments, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, de vérité et de sanctification, dont elle ne peut pas ne pas tenir compte, et qui tendent par eux-mêmes, ces éléments, chez les protestants, chez les catholiques et d'autres, tendent vers l'unité. Un seul Dieu, une seule foi, une seule Église. Donc, l'unité est donc fondamentale, à l'intérieur d'une pluralité d'églises particulières, hein, comme on dit aussi dans le Concile, mais il y a qu'une seule Église vers laquelle qui tend d'ailleurs vers sa perfection. Or, l'unité, elle est à la fois dans l'Église et en même temps, elle est devant elle. Donc, elle y tend toujours. C'est pour ça qu'on parle d'espérance de l'unité. Alors, quand est-ce qu'elle se réalisera? On ne sait pas, au moins à la fin des temps, certainement. Hein. L'unité, on dit quelquefois, elle est eschatologique.
Ah oui. Hein, mais ça n'empêche pas
de la chercher
dès
maintenant.
Dès aujourd'hui. Oui.
Et c'est possible, puisque en dehors de l'Église catholique romaine, il y a des éléments de vérité. Donc on doit pouvoir, il faut les identifier, ces éléments de vérité, voir ce qui nous est commun, et c'est même le point de départ de la démarche écuménique. Qu'est-ce qui nous est commun?
Oui,
il y a beaucoup de choses
qui nous
est commun, qui nous sépare. Et à partir de ce qui nous est commun, nous pouvons voir ce qui nous sépare ou nous divise. Et il faut surmonter, hein, c'est pas le mot n'est pas utilisé par le Concile, mais on peut l'utiliser ici, surmonter les différences, quand elles ne sont pas légitimes, hein, et puis et parvenir ainsi à la plénitude ou à la perfection de l'unité.
Alors, certaines personnes nous disent... oui, mais en fait, vous êtes peut-être un peu prétentieux à dire que l'Église catholique est seule à détenir la vérité et à dire que
alors,
c'est la seule Église.
Alors, c'est pas ce que l'on dit.
Voilà, et ben, voilà, c'est pour ça que c'est mal compris.
C'est pas ce que l'on dit. La plénitude des moyens de salut se trouve dans l'Église catholique romaine. C'est, bon, un catholique ne peut pas ne pas le confesser. Maintenant, est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est exclusif? Est-ce que ça veut dire qu'en dehors de l'Église catholique, il n'y a que des erreurs? Non, il y a des éléments de vérité et de sanctification. Mais quels sont-ils? C'est ça qu'il faut voir aussi. Hein.
Oui.
Donc, plutôt que de... La différence avec la période antérieure, qu'on appelait pas l'écuménisme, on appelait ça l'unionisme. L'Église catholique considérait qu'étant elle-même détentrice par grâce de la vérité du Christ, elle se devait d'aller vers les autres pour les convertir, ce qui n'est pas faux. Mais de convaincre les autres de leur erreur.
Oui, sans relever des éléments de vérité.
C'était ça, là. C'est l'entreprise de la controverse, la littérature de controverse et d'apologétique qui a été celle d'avant le Concile, qui n'est pas mauvaise. Hein, il y a des très bonnes choses là-dedans. L'Église considère qu'il faut élargir le spectre, que ça ne suffit pas, que l'écuménisme repose sur le fait qu'en dehors de l'Église catholique romaine, il y a des vérités qu'elle doit, dont elle ne peut pas ne pas tenir compte.
Elle ne peut pas les ignorer.
C'est pas possible. Hein. Il n'y a donc pas que des erreurs chez les protestants, chez les orthodoxes et autres confessions religieuses. C'est d'ailleurs même aussi ce qui fonde, alors, au-delà de l'écuménisme, le dialogue interreligieux.
Oui, c'est ça.
Alors là, c'est une autre problématique. Mais le principe de fond, il est le même. Il y a des vérités religieuses, captives ou pas, je n'en sais rien, mais dans d'autres religions, et c'est ce qui rend possible le dialogue avec ces religions-là.
Oui, bien sûr. Dans ce préambule, il y a aussi cette volonté du Concile de proposer à tous les catholiques les moyens, les voies et les modes d'action qui leur permettront de répondre à cet appel divin et à cette grâce de l'unité. Et c'est, là aussi, ce n'est pas forcément ce qu'on entend. On a l'impression que c'est un petit peu réservé à des spécialistes.
De fait, c'est réservé plutôt à des spécialistes. Mais je rappellerai que ce qui est premier dans la cause de l'unité, c'est la prière pour l'unité. D'où la semaine que nous allons commencer de prière pour l'unité des chrétiens. Tous les catholiques, et même tous les chrétiens, doivent, et pas simplement peuvent, doivent prier pour l'unité des chrétiens. Ça s'impose à n'importe qui, théologien ou pas, connaissant ou pas bien les tenants et aboutissants de la cause écuménique, on doit toujours le faire. Est-ce que c'est conforme à la volonté du Christ qui nous a demandé de prier pour l'unité? C'est ça. Alors après, vous avez, c'est vrai que depuis les années 60, la cause écuménique est peut-être, on dit parfois, au ralenti. Et puis, non seulement elle est au ralenti, mais les catholiques, souvent, ne savent pas très bien exactement où on en est. Mmh. Bon, c'est un peu inévitable. C'est, à mon avis, pas très heureux. Mais c'est un peu inévitable, d'abord parce que dans le temps passe et y a une espèce de lassitude qui parfois semble s'emparer de tel ou tel acteur de l'écuménisme. Mais les fidèles ne sont pas au courant de tout ce qui, depuis 50 ans, résultats qui sont réels, mais qui sont précaires. Parce que les églises en question, ou les confessions ecclésiales, ou les communautés ecclésiales, dit le Concile, hein, communauté ecclésiale, elle change dans le temps. Mm. Donc, la cause écuménique, la cause unie, elle est toujours à reprendre. Or, c'est vrai que les fidèles ne sont pas au courant, ou rarement, et même parfois les pasteurs, ne sont pas toujours très au courant de l'état présent de l'écuménisme. Mm. Bon. Donc, la semaine pour l'unité, c'est un moyen pour, très concret pour les églises particulières de faire en sorte que les fidèles prient, et même au-delà de la prière ou avec la prière, s'informent et qu'on les informe, ces fidèles, des résultats de la cause de l'entreprise écuménique, démarche pour l'unité des chrétiens.
C'est un coup de projecteur qui est bienvenu en tout cas. Alors, il y a trois parties dans ce décret Unitatis Redintegratio. La première partie porte sur les principes catholiques qui guident l'action écuménique. La deuxième, elle a trait à l'exercice et aux modalités de cette action. Et enfin, la troisième partie présente les églises et communautés ecclésiales séparées du siège apostolique romain. On va s'arrêter aujourd'hui sur les deux premières qui sont déjà très conséquentes. Oui. Le premier chapitre intitulé « Les principes catholiques de l'œcuménisme ». Comment l'unité est-elle réalisée selon les pères conciliaires, frère Philippe-Marie ?
Alors l'unité, elle existe depuis toujours, de par la volonté et par la grâce du Christ, dans l'Église. Donc l'unité, elle est à la fois, comme je le disais tout à l'heure, à venir, nous la recherchons, mais elle est déjà présente. Où se trouve-t-elle ? En sa plénitude, cette unité, et toujours se perfectionnant. L'Église, je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans l'Église catholique romaine. L'Église, à part grâce, c'est une des notes de l'Église. Hein. L'Église est une, sainte, catholique, apostolique. Oui, première, c'est l'unité. Cette unité, elle est inadmissible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la perdre, et elle est toute contenue dans l'Église catholique romaine. Or, ce qui fait l'unité dans l'Église, c'est d'une part la confession de foi, c'est pour ça qu'on recherche l'unité dans la foi, dans la confession de foi, ça veut dire aussi sur le contenu de la foi, c'est pas indifférent ça à l'unité. Et deuxièmement, l'unité de culte, l'unité dans le culte des sacrements, et parmi les sacrements, celui qui fait l'unité par excellence de l'Église, en tout cas dans l'Église catholique, mais même dans les autres églises, hein, même celles qui ne reconnaissent pas, disons, l'Eucharistie comme l'Église catholique le reconnaît, c'est bien l'Eucharistie qui fait l'unité de l'Église. Donc l'unité, j'allais dire, de l'Église, elle est sacramentelle.
Et quelle est la part de l'Esprit-Saint dans cette unité ?
Il n'y a pas de sacrement sans Esprit-Saint, il n'y a pas de confession de foi sans Esprit-Saint. On dit d'ailleurs même que l'Esprit-Saint est l'âme de l'Église, ou son principe. Hein, il y a un double principe de l'Église, il y a le Christ et l'Esprit Saint, mais l'Esprit Saint, c'est l'Esprit du Christ. Mmh. Donc là où nous confessons ensemble la vraie foi, là où nous célébrons autant qu'il est possible les sacrements, au moins le baptême, qui nous est commun, eh bien, l'Esprit Saint agit. C'est certain. Donc, l'Esprit Saint est la cause, du processus écuménique. Bon, l'Église, c'est une société, une communion, mais quelle est cette société de communion ? Qu'est-ce qui l'a fait se mouvoir, aller de l'avant vers l'unité qu'elle possède, mais vers laquelle elle est quand même toujours tendue ? C'est l'Esprit du Christ.
Mmh, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire des personnes qui appartiennent aux communautés séparées de l'Église catholique ? Est-ce que, dans quelle mesure elles sont en communion avec elles ?
Par tout ce qu'elles confessent avec nous de commun, en commun, et par tout ce qu'elles célèbrent avec nous en commun, et par tout ce qu'elles font aussi, au plan pas simplement de la foi et des sacrements, mais au plan moral, au plan de la vie chrétienne, tout ce qu'il y a de commun dans l'agir d'un protestant, l'agir d'un orthodoxe et l'agir d'un catholique. Donc ça fait quand même beaucoup de choses.
Ça fait déjà beaucoup de choses. Oui, et donc ça veut dire qu'il y a une communion qui est imparfaite.
Imparfaite. Voilà. Et qui tend vers une communion parfaite.
Mais finalement, un des points communs, c'est quand même cette foi qui est reçue au baptême.
Oui, l'élément, si vous voulez, premier, selon lequel et par lequel je peux identifier que nous sommes déjà unis imparfaitement, mais réellement, imparfait, ça ne veut pas dire irréel. Hein.
Oui.
C'est réellement, c'est le baptême, qui est le sacrement de la foi. Donc, il y a cette communauté, j'allais dire, de base, fondamentale, qui est l'unité, l'unité sacramentelle, qui est aussi une unité de foi en Dieu Trinité, au Christ Sauveur, et puis aussi en l'Église, parce que les protestants, ils croient qu'il y a bien une Église, ils ont le même credo que nous, même s'ils ne le traduisent pas forcément toujours avec les mêmes mots, ils ont bien le même essentiel contenu avec nous. Quand je dis protestants, je n'oublie pas les orthodoxes, hein, même s'ils sont plus importants en nombre en France que les orthodoxes.
Dans le commun, il y a aussi la parole de Dieu.
Bien sûr, la parole de Dieu, hein, la parole. Alors, quand on dit parole de Dieu, ici, vous l'entendez par l'Écriture.
Oui.
Hein, c'est ça, parce que la parole de Dieu, c'est plus vaste que l'Écriture. Mais bien sûr, le point commun, il y a dans la foi, qu'est-ce qui nous est commun c'est que ensemble, nous nous recommandons du Christ. Lequel nous est connu par les Écritures. Et, alors, il y a aussi la tradition dans l'Église catholique et même dans l'Église orthodoxe. Le statut de la tradition chez les protestants n'est pas le même. Alors, vous voyez, c'est un des points de divergence. Là. Mais ce qu'il y a au point de départ de commun, c'est l'unité des Écritures.
L'unité des Écritures. Donc, cette parole de Dieu, cette Écriture, donc, elle est écrite, elle donne finalement... une vie de grâce, elle donne la foi, l'espérance et la charité, les trois vertus théologales. Est-ce qu'elle apporte d'autres dons, si on peut dire, qui pourraient être communs aux communautés ecclésiales?
Alors, il y a d'autres éléments communs.
Ouais.
Si on veut entrer dans le détail, il y a des éléments aussi de... Donc, vous dites la foi baptismale, mais il y a aussi l'Eucharistie. Deux sacrements qui sont communs à toutes les confessions chrétiennes, aux communautés ecclésiales, en dehors même de l'Église catholique ou même de l'Église orthodoxe, c'est l'Eucharistie, baptême-Eucharistie. Après, il y a la prière... La foi, elle suscite la prière. La foi, elle est priante. Donc, il y a une prière commune. Il y a quand même un pater que nous pouvons dire ensemble. Il y a une traduction qui se veut écuménique, qui est écuménique. Donc, un protestant peut dire le même pater qu'un catholique ou un orthodoxe. Je vous salue Marie. Là, c'est pas forcément le cas.
C'est bien plus difficile.
Mais enfin, il y a quand même... vous voyez, donc, il y a pas simplement... un credo, il y a la prière, il y a l'écriture, et puis il y a aussi, je vous disais, dans ce qui est de l'ordre dans l'ordre moral, dans l'ordre éthique, des éléments qui nous permettent de dire ensemble, au plan, par exemple, je prends un exemple, de la dignité humaine, nous pouvons nous reconnaître ensemble, qu'est-ce qui fait la dignité humaine comme image de Dieu? Ça aussi, c'est quand même pas négligeable.
Et ça, justement, les communautés ecclésiales sont d'accord sur cette question de la dignité?
Alors, dans son principe, elles sont d'accord. Dans son application du principe, peut-être un peu moins. Puis, je vous disais tout à l'heure, les églises, elles évoluent dans le temps.
Oui, c'est ça.
Églises ou communautés ecclésiales ou confessions chrétiennes, elles évoluent dans le temps. Par exemple, sur la question, prendre une question qui n'est pas notre objet ici, mais c'est pour donner à l'auditeur qu'est-ce qui pourrait nous diviser ou sur lesquels on n'est pas d'accord sur le plan éthique. Par exemple, la question de l'avortement. Les protestants ne l'envisagent pas, enfin certains protestants ou certaines confessions protestantes, parce qu'il n'y en a pas qu'une, ne sont pas tout à fait d'accord avec l'Église catholique sur ce point. Ou même à propos de l'euthanasie par exemple. Sur la doctrine sociale de l'Église, et l'Église a une doctrine sociale, vous avez des appréciations variées. Moi j'ai rencontré des protestants, pasteurs, qui ne partage pas absolument toutes les données, hein, le contenu de la dite doctrine sociale de l'Église.
D'accord.
Mais dans son principe, oui.
Les pères conciliaires affirment que le Christ a accordé l'unité à son Église dès le commencement. Et vous le disiez, frère Philippe Marjolidon, à quoi va donc répondre l'œcuménisme, si finalement ça a déjà été construit dès le début?
Parce qu'il y a des éléments d'unité qui sont dispersés en dehors de l'Église catholique romaine.
Voilà. Donc le but, c'est vraiment...
C'est l'Église catholique romaine qui entreprend la démarche œcuménique. Et qui, en raison de ces éléments qui sont extérieurs à l'Église, mais qui lui appartiennent de droit à l'unique Église de Christ, hein, c'est ce que dit le Concile, j'allais dire oblige l'Église catholique à rechercher les voies de l'unité. Elle ne peut pas ne pas le faire. Sinon, elle serait infidèle à l'Évangile.
Au désir du Christ
de l'unité.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est la raison pour laquelle les pontifes successifs, depuis au moins Paul VI, disent que la cause de l'unité des chrétiens n'est pas une cause annexe, une espèce d'appendice pour l'Église. Je dirais même qu'en un sens, c'est vital pour elle. Même si cette vitalité, elle est toute contenue dans l'Église catholique, elle a les moyens de cette vitalité, que je suis tout à fait d'accord. Mais néanmoins... Ces éléments internes de vitalité dans l'Église et ces éléments de vitalité externe en dehors de l'Église poussent les chrétiens ensemble à chercher les voies de l'unité.
Oui, c'est un chemin et en fait un encouragement. On va s'arrêter quelques instants, frère Philippe-Marie Marjolidon, pour prendre une petite pause musicale et puis nous verrons juste après l'exercice et les modalités de l'action œcuménique. Nous écoutons « Église ma toute belle » interprétée par le groupe de prière Abba.
Église, mon amour. Thank you.
présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
De retour avec le frère Philippe-Marie Margelidon pour nous parler du décret Unitatis Rei d'Integratio sur l'œcuménisme. Il est important de comprendre que chacun, laïc comme pasteur, doit participer à la réalisation de l'union de l'Église. Ça passe par la prière, vous l'avez dit, les liens fraternels, la vie quotidienne, mais aussi les recherches théologiques et historiques. Par quoi doit donc passer la rénovation de l'Église ?
Alors, vous avez étudié un mot énorme, c'est qu'il ne s'agit pas simplement donc... Pour atteindre l'unité, il faut non seulement restaurer cette unité, qui existait déjà, mais qui doit se parfaire, elle doit se rénover. C'est pour ça qu'il y a eu un concile Vatican II. Le concile Vatican II, c'est un concile de rénovation intérieure. Bon. Mais cette rénovation, elle concerne l'Église aussi dans son rapport aux autres, pas simplement à l'intérieur d'elle-même. D'accord. Et c'est pourquoi elle appelle tous les chrétiens à la prière pour l'unité, pour cette rénovation intérieure de l'Église, à dimension universelle, et qu'elle cherche... Elle cherche les moyens, donc elle discerne, hein, qui dit cherche, dit recherche, dit discernement, les moyens de parvenir à l'unité, non seulement dans la charité, mais d'abord dans la foi. Et donc c'est l'importance qu'a le dialogue théologique sur les questions qui nous sont communes, les points communs, la manière de les formuler en commun.
Donc les sacrements, le credo, comme vous
tout,
disiez.
Tout le contenu de la foi chrétienne, tout le catéchisme, si vous voulez. Hein, comment on peut le... Hein, et puis ensuite... ce qui nous sépare. Donc, il ne s'agit pas de promouvoir... la rénovation de l'Église voulue par le Concile n'aboutit pas, comme certains le disent dans les milieux, dans certains milieux traditionalistes ou même carrément intégristes, à une relativisation de la vérité de la foi catholique. Mmh. On ne relativise en rien, le contenu de la foi.
Oui, seulement, parce que ce terme de rénovation pourrait faire peur, justement.
Oui, on rénover comme si l'Église... rénover, c'est changer. Mmh. Il faut changer. La manie du changement, toujours changer. Mais non, la foi est immuable. La foi, elle demeure la même. Seulement, sa formulation, elle se développe dans le temps. Et ensuite, elle se développe aussi dans le temps, pas simplement à l'intérieur de l'Église, mais dans sa confrontation au monde. Oui. Et puis ensuite, même au-delà du monde... dans le dialogue avec ceux qui se disent chrétiens. Donc nous vérifions sans cesse que protestants et catholiques, catholiques, protestants, orthodoxes, nous confessons la même chose. Et que nous avançons de telle manière qu'on puisse ensemble surmonter, c'est le mot que j'utilisais tout à l'heure, les points qui nous divisent,
oui,
qui
sûr.
Nous séparent. Et ça n'est pas une petite entreprise. Au plan de la foi, oui, je me permets d'ajouter, mais aussi au plan de la morale, c'est-à-dire au plan éthique, au plan de l'agir chrétien.
Est-ce que ça nécessite justement cette rénovation, une conversion du cœur ?
Ah, toujours. Pas de réforme, puisque le concile voulait être un concile de réforme, comme le concile de Trente l'avait été auparavant, un concile de rénovation, de restauration de l'unité par une rénovation. Ça passe par une conversion des cœurs. La vérité, nous sommes dedans. La vérité de la foi catholique, elle est immuable. Mais en même temps, elle est devant nous. Et nous ne pouvons accéder à la plénitude de la vérité qu'en nous convertissant, parce que nous sommes tous des pécheurs. Les catholiques sont des pécheurs. Tous les hommes sont pécheurs, donc c'est sans cesse une conversion du cœur, une conversion de l'esprit. C'est pour ça qu'il y a une certaine attitude écuménique, qui n'est pas simplement de l'ordre du sentiment, mais qui est de l'ordre aussi
de l'intelligence.
Et mettons avec l'intelligence une conversion spirituelle. Donc d'où la prière pour l'unité. Oui. Parce que prier pour l'unité, c'est prier pour sa propre conversion. Moi, Philippe-Marie Margelidon, est-ce que je convertis mon cœur et mon esprit pour que l'unité de la plénière des chrétiens advienne ? C'est ça aussi. C'est pas simplement, pour moi, en tant que théologien, discuter d'un point particulier de la foi sur lequel nous divergeons avec un protestant et un orthodoxe. C'est en même temps que je le fais, chercher à me convertir pour parvenir à une formulation, à une confession de foi plus parfaite, plus plénière.
Et donc cette prière pour l'unité des chrétiens que le décret Unitatis Rei d'Integratio appelle l'œcuménisme spirituel, c'est vraiment ça, c'est cette démarche de désir d'unité et de conversion propre.
Tout à fait. Et elle est même, encore une fois, première.
Elle est première.
L'œcuménisme spirituel est premier. Il faut toujours revenir à ça. J'allais dire, l'intellect suivra. L'intelligence doit suivre. Mais spirituel, ça veut dire aussi intellectuel. Hein. Ça ne faut pas séparer.
Oui, bien sûr.
Mais c'est d'abord une démarche intérieure. Et c'est là qu'on voit la place de l'amour. La recherche de l'unité, elle est fondée sur l'amour de l'unité, l'amour du Christ qui est un, et c'est décisif pour avancer. Elle doit passer, cette unité dans la charité, par l'unité dans la foi. De même qu'il n'y a pas de vertu théologale de charité sans vertu de foi, il faut qu'au départ, nous puissions, pour être pleinement un, comme le Christ l'a voulu, nous le soyons d'abord dans la confession de foi. Donc, là où nous divergeons, nous devons chercher la manière, en se convertissant les uns les autres, en nous convertissant peut-être d'ailleurs les uns avec les autres, rechercher la manière la plus évangélique d'aboutir à cette unité dans la confession de foi. C'est capital, ça.
Ça, c'est capital. Dans le dialogue, dans l'œcuménisme, le dialogue entre les communautés ecclésiales, il y a quand même une responsabilité, entre guillemets, qui est donnée dans chaque diocèse.
Alors après, ça, en effet, bon, y a Rome, y a un dicastère pour l'unité des chrétiens, avec un préfet, un cardinal, et puis au-dessus de lui, y a le pontife romain qui, j'allais dire, veille au grain. Mais ensuite, il faut que ça descende jusqu'au simple fidèle. C'est là où c'est le plus difficile.
Ouais.
Mais dans chaque diocèse, il y a quelqu'un qui est chargé par l'évêque. D'abord, c'est l'évêque lui-même. C'est l'évêque lui-même qui délègue quelqu'un.
Qui délègue.
Bien sûr, l'évêque ne peut pas faire tout seul. Il délègue quelqu'un qui est chargé, à son niveau, au niveau diocésain, de promouvoir l'unité. Et celui qui va promouvoir l'unité, au nom du diocèse, c'est-à-dire ici au nom de l'évêque du diocèse, il va chercher aussi des moyens très concrets de faire que, par exemple, les protestants et les catholiques puissent s'assembler, prier ensemble... discuter ensemble. Il y a des commissions œcuméniques qui existent dans les provinces ecclésiastiques, par exemple, à l'échelon, voyez, des diocèses. Puis après, il y a un échelon encore supérieur, au plan de la conférence épiscopale, il y a un évêque délégué pour la conférence épiscopale, pour la cause de l'unité des chrétiens.
Et vous le disiez, au niveau du pape, on l'a vu avec l'anniversaire du 1700e anniversaire du credo de Nicée-Constantinople, quand
sûr.
Le pape Léon XIV s'était placé en Turquie. Là, on a vraiment vu cette volonté d'unité en action.
Ah oui, tout à fait. Et comme nous le disions tout à l'heure, on peut dire qu'à cet égard, l'Église catholique romaine joue un rôle moteur. L'Église actuellement, qui est, je pense, sans exagération et sans faire de récupération facile, qui est le premier acteur de la cause œcuménique, c'est l'Église catholique.
Oui.
Ça, c'est absolument certain. Avec ce que ça comporte de difficile, c'est pas simple, et parfois, ce que ça peut comporter, que voulez-vous, d'aléas, et même éventuellement d'erreurs, non pas du point de vue de Rome, mais il y a des impasses, et ça existe comme partout. Il y a des impasses œcuméniques, il y a des stagnations, il y a des ralentissements, il y a ce qu'on appelle, on a parlé même d'hiver œcuménique. Oui, c'est sûr qu'après l'enthousiasme des années 60, on est plutôt dans une période d'interrogation.
Mais ça ne doit pas nous arrêter.
Il faut... Il faut continuer, il faut persévérer avec opiniâtreté, mais aussi intelligence, sachant qu'il y a des obstacles, il y a parfois de nouveaux obstacles à la cause de l'unité. Mais ça, l'Église ne renoncera pas, c'est très certain, au principe catholique de l'œcuménisme.
Oui, c'est ça, et de l'unité. Le décret Unitatis Rei d'Integratio prévoit les dispositions d'une pleine communion entre les églises orientales et l'église catholique. Cette communion, elle implique tout d'abord de bien connaître ces églises, leur histoire, leur situation avant la scission avec Rome. Qu'est-ce qu'il faut particulièrement comprendre à propos des églises orientales?
Alors, les églises orientales, en effet, ce n'est pas simplement l'église orientale au singulier, c'est les églises orientales. Elles sont extrêmement diverses. Je pense que les catholiques ne se rendent pas compte,
oui,
ne connaissent pas, la diversité de ces églises qui d'ailleurs ne sont pas forcément d'accord entre elles.
En plus.
En plus. Donc ce qui complique aussi la tâche œcuménique. Par exemple, prenons un exemple très simple. En raison d'ailleurs des circonstances extérieures à l'Église, ou même à ces églises, il y a deux grands patriarcats, le patriarcat de Moscou et le patriarcat de Constantinople. Historiquement, c'est le patriarcat de Constantinople, donc orthodoxe, qui est premier. Bon. Dans les faits, le patriarcat le plus abondant, le plus grand, celui qui a
le plus influent,
c'est le patriarcat de Moscou. Or, la Russie est en guerre avec l'Ukraine. Je peux vous dire que les relations, ça c'est un des effets indirects de cette guerre russo-ukrainienne, ça a des effets sur...
les relations entre ces deux patriarcats.
Entre les églises en Orient, et ensuite entre l'église orthodoxe russe et l'église catholique romaine.
Oui, en plus, oui.
Donc, alors, c'est certes circonstanciel, hein. Ça ne va pas durer indéfiniment. Mais
espérons-le, oui.
ça rend le dialogue œcuménique plus difficile. Oui. Bon, l'Église le sait, elle ne se décourage pas. Hein, et d'ailleurs, il y en a d'autres en dehors de l'Église qui ne se découragent pas pour autant. Il faut prendre le problème à bras-le-corps et puis surmonter ce problème circonstanciel qui dure, hein, pour l'instant.
Oui, oui, bien sûr. Et puis, il y a aussi... dans ce décret Unitatis Rei d'Integratio, les liens entre l'Église catholique et les églises et communautés ecclésiales séparées en Occident.
En Occident. Alors, à la complexité des églises orientales, il faudrait entrer dans le détail, mais nous ne pouvons pas le faire ici. La complexité du dialogue œcuménique entre l'Église catholique romaine, occidentale essentiellement, mais il y a aussi des orientaux catholiques, hein, il ne faut pas les oublier.
Oui,
l'Église
vrai.
Catholique, elle est aussi orientale. Et les églises, disons, orientales orthodoxes, si c'est complexe de ce côté-là, c'est aussi complexe en Occident, parce qu'il y a des différences, je ne veux pas faire des choses qui sont quand même plus connues pour nous, entre les églises dites réformées, ou les communautés ecclésiales réformées, et puis les luthériens. Et puis toutes les autres, les églises notamment d'origine nord-américaine, qui ont une influence considérable en Europe. Les évangéliques...
Oui, qui se développent beaucoup.
Ce qui rend le dialogue œcuménique aussi parfois plus difficile. D'abord, il y a pour l'église, par exemple, ou les églises, disons, prenons au sens large ici le mot église, hein, au sens large, les églises protestantes, l'apparition des églises évangéliques d'origine nord-américaine ne facilite pas la vie, toujours, des protestants de France.
Ah oui.
C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église protestante unie de France. Bon, mais l'Église catholique, elle ne peut pas ne pas en tenir compte, parce qu'elle dialogue avec tout le monde.
Bien sûr.
Avec tous. Nous cherchons, avec tous les acteurs, tous les agents, toutes les personnes qui appartiennent à ces confessions. Donc, de sorte que, je pense même sans exagération, que le dialogue œcuménique est aujourd'hui plus compliqué qui ne l'était en 1965.
Parce que c'est dû à la multiplicité
des confessions professantes, de leurs changements internes, de leur fragmentation. Donc c'est plus difficile, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible.
Oui, bien
plus
sûr.
Difficile ne veut pas dire impossible.
Et puis il y a toujours l'espérance, évidemment.
Tout à fait.
Qui permet d'avancer et qui ne va pas faire baisser les bras.
Non. Et puis, alors, on peut ajouter une autre difficulté, mais ça, c'est lié au contexte, disons, idéologique ou intellectuel du temps. C'est que le rapport à la vérité de la foi a évolué aussi dans le temps.
Parce que dans la société, le rapport à la
vérité. Le rapport à la vérité est devenu problématique. Est-ce qu'il y a une vérité?
La frontière entre les deux. On dit qu'on est
dans l'ère de la post-vérité. Hein, mais ça conditionne aussi un certain nombre de dialogues. Donc, de sorte que ce qu'on appelle le relativisme, il est partout présent, jusque dans l'Église catholique, quelquefois, ou en tout cas tel ou tel acteur hein, dans l'Église catholique. Cette donnée culturelle actuelle, depuis au moins une trentaine d'années, hein, peut-être un peu plus même, change certaines conditions du dialogue écuménique. Parce que le dialogue ne peut pas avoir lieu sans que nous recherchions ensemble la vérité. Hein. Mais la vérité, c'est quoi ?
Mais oui, c'est ça.
C'est quoi la vérité du Christ ?
La perception n'est pas la même.
N'est pas toujours la même. Et puis les mots pour le dire diffèrent. Donc il faut s'entendre aussi sur le vocabulaire, sur les mots. Et à travers les mots, ne disons pas c'est une querelle de mots. Alors quelquefois, c'est des querelles de mots, comme dit saint Paul. Hein. C'est des querelles vaines. Mais il y a des querelles de mots qui ne sont pas vaines. Parce que les mots disent quelque chose. Il faut qu'on s'entende sur justement ce que c'est, par exemple, que l'Église.
Oui, c'est ça. Oui.
Et comment on appartient à l'Église. Qui est membre de l'Église. Et il n'y a pas toujours... Nous ne sommes pas toujours d'accord sur ce point.
En tout cas, on entend que malgré toutes ces difficultés de s'entendre hein, sur des questions de vocabulaire, mais aussi sur des questions de foi.
Ouais,
on
de fond. Que,
voilà, de
derrière
fond.
Les, voilà. Derrière les mots, il y a des questions de fond.
Voilà. Hein. Mais on entend quand même qu'il y a cette volonté d'unité. Et c'est ça, finalement, en conclusion qu'on peut retenir. C'est que cette volonté d'unité, elle doit être portée par chacun dans sa prière, à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, mais évidemment beaucoup plus généralement.
Beaucoup plus généralement, et je remarque d'ailleurs dans la prière de l'Église, il est fréquemment rappelé dans l'année, pas simplement la prière de l'unité, durant la semaine de prière de l'unité, que nous prions aussi pour l'unité des chrétiens. D'ailleurs, nous le faisons à chaque messe.
Oui, bah oui, dans la...
Après le pater, oui. nous disons bien, alors on n'utilise pas le mot écuménisme, hein, mais nous prions tous ensemble pour prier pour l'unité parfaite.
Et dans la prière du vendredi saint, si je...
Bien sûr aussi, mais là, c'est une fois dans l'année.
Oui.
Mais en dehors de ces grands moments liturgiques, il est très fréquent que nous prions pour l'unité dans l'Église, mais aussi l'unité de tous les chrétiens dans l'unique Église du Christ,
oui.
Pour parvenir à l'unité parfaite.
L'unité parfaite qui se réalisera sur cette terre.
Dans l'autre.
Ou dans l'autre. Merci beaucoup, frère Philippe-Marie Marjolidon, de nous avoir éclairé sur ce décret Unitatis Redintegratio sur l'œcuménisme. Et grâce à cela, nous espérons que chacun se sentira peut-être davantage concerné par l'unité de l'Église. Merci infiniment.
Merci bien.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.